Bonjour et bienvenue sur Heureux et Surdoué, Zèbre ou HPI, le podcast qui explore le haut potentiel pour vous aider à bien vivre le vôtre. Si vous découvrez ce podcast, sachez que l'épisode que vous vous apprêtez à écouter est le troisième et dernier d'une mini-série sur la thématique de l'épanouissement au travail. Puisque d'après plusieurs études, nous passerions quelques 100 000 heures au travail, soit quasiment 12 années cumulées, et puisqu'environ 92% des actifs se seraient déjà posé la question du sens au travail, il était impossible de ne pas aborder ce sujet sous ce nouveau format de mini-série. Pour en discuter, je suis accompagnée de Vanessa Musset, consultante facilitatrice et fondatrice du cabinet nantais Move Consulting. Nous aurions pu parler ensemble d'alignement, de valeurs et de besoins, des sujets vraiment intéressants, mais ce n'est pas du tout ce que nous avons fait, et ne me dites pas que vous trouvez ça étrange, je ne vous croirai pas. Dans le premier épisode, nous avons parlé d'agentivité et de co-responsabilité, mais aussi de comment être à la bonne place, au bon endroit et avec les bonnes compétences. Dans le deuxième épisode, vous nous entendez parler de pourquoi passer d'un management de masse à un management de la singularité. Autrement dit, recruter à partir d'une fiche de poste ou recruter un collaborateur pour son profil et ses compétences acquises et à venir. Nous nous sommes aussi demandé si les profils atypiques ne pouvaient s'épanouir qu'en mode indépendant. Et pour ce dernier épisode, vous nous entendrez parler de transformation du marché du travail, de se mettre dans la peau d'un profiler d'entreprise quand on est en recherche d'emploi et de business model. Avec Vanessa, on espère sincèrement que ces trois épisodes vous seront utiles, qu'ils vous aideront dans votre cheminement professionnel que l'on sait, sans faire de généralité, pas toujours simple pour des profils comme les nôtres. Et si vous voulez soutenir ce podcast, et j'espère que c'est le cas, je vous invite à laisser un commentaire 5 étoiles si votre plateforme d'écoute le permet. Je vous invite aussi à m'écrire à l'adresse indiquée dans le descriptif de l'épisode pour me proposer une thématique, une mini-série ou un témoignage. Et enfin, je viens de créer pour ce podcast un répondeur et j'ai hâte d'entendre vos messages, vos réactions, vos questionnements. Bref, j'aimerais beaucoup avoir un peu plus d'interaction avec vous et c'est le moyen le plus simple que j'ai trouvé. Je vous souhaite une très bonne écoute et j'attends vos retours. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui sur le marché du travail? À quel point il s'est transformé en fait ces dernières années et quelle est sa photographie aujourd'hui?
Alors, on va faire une généralité parce que forcément il y a des exceptions en fonction des métiers, ça va de soi et en fonction des régions. Mais on sait aujourd'hui que 80% du marché du travail, et notamment des petites annonces, sont déjà préemptées, soit en interne dans l'entreprise, par des mobilités internes, soit par le réseau qui fait que certaines personnes ont accédé à ces annonces avant qu'elles paraissent.
80%, c'est énorme en fait.
C'est énorme et c'est pas si récent que ça, tout compte fait.
D'accord.
Je dirais que c'est le cas depuis une quinzaine d'années, mais c'est assez peu pris en compte dans la manière dont on postule, dans la manière dont on nous apprend à postuler aussi, faire son CV, lettre de motivation. Mais c'est un constat. Et c'est un constat qui s'est accéléré, notamment avec ce principe de communication. Il est de bon temps pour les entreprises de montrer qu'elles recrutent.
D'accord.
Donc, les annonces, quand elles paraissent, elles sont déjà préemptées. Mais en fait, ça participe à la dynamique de la marque employeur ou à la dynamique de l'entreprise. Donc, il faut le voir comme une vitrine plutôt publicitaire, plus qu'un réel besoin de recrutement où on arrive en bout de course. Et puis, il ne faut pas se leurrer, sur certains profils, il y a parfois tellement de candidatures qu'il y a assez peu de temps investi au traitement des candidatures. Donc, comment on fait quand on connaît ce principe-là? Il faut absolument essayer de provoquer cette relation de partenariat qu'on évoquait dans les podcasts précédents. Et ça change un peu la donne. On ne séduit pas quelqu'un en parlant uniquement de soi. On séduit quelqu'un en parlant de l'autre. Du coup, quand on devient un acteur de sa vie professionnelle et de ses futures missions, eh bien, il est important de prendre le temps de sélectionner là où les entreprises qui potentiellement peuvent répondre à nos besoins. On parlait dans le podcast précédent de l'équilibre personnel, d'homéostasie, oui. Du respect, de ce qu'on peut apporter. Il faut déjà sélectionner ces entreprises-là et plutôt que de les solliciter sur leurs besoins de recrutement, d'être force de proposition sur ce qu'on a à leur apporter. C'est-à-dire que si j'arrive en disant, ben voilà, j'ai identifié que vous aviez fêté votre anniversaire, les 25 ans de votre entreprise il y a 5 ans, je me disais que peut-être que vous alliez organiser les 30 ans cette année. Ça tombe bien, je suis une professionnelle de l'organisation événementielle et je suis en recherche de challenge aujourd'hui. Accepteriez-vous qu'on échange pour envisager de mutualiser nos projets respectifs? Ça change un peu la donne. On n'est plus en posture d'attente et de réponse, mais bien en posture de proposition.
C'est très différent, ouais. Et ça va bien au-delà du petit paragraphe, tu sais, de la lettre de motivation, ouais. Où on nous conseillait de toujours commencer justement par une phrase qui montrait qu'on s'était intéressé à l'entreprise.
Ouais, mais souvent, les lettres de motivation, on les commence par « je », et éventuellement, on fait le lien avec l'entreprise. Et puis après, une petite phrase de conclusion, non, on ne séduit pas quelqu'un en parlant de soi. On séduit quelqu'un parce qu'on sait parler de lui, de l'autre. Donc, c'est l'autre, moi et nous. Comment on peut... Et pour le coup, on ne peut pas se permettre de sélectionner 20, 50 entreprises. Donc, la posture de se mettre... dans un profiler d'entreprise, c'est-à-dire d'en sélectionner 5 maximum, idéalement c'est 3, 3 entreprises où on va enquêter, on va utiliser les réseaux sociaux pour déterminer qui a grandi dans l'entreprise, les événements, l'ambiance, checker qu'il n'y ait pas de red flag, c'est-à-dire de petits drapeaux rouges par rapport à ce que l'on est, éventuellement checker les départs pour se saisir de cette opportunité, ça prend du temps, beaucoup plus de temps que de réaliser une lettre. Quand on a vraiment fait ce travail-là, il devient beaucoup plus facile de proposer une première amorce de travail, en fait. Donc, ça peut être un rebond de proposition, ça peut être la matérialisation, c'est-à-dire le maquettage d'une partie de notre savoir-faire. Alors, c'est plus facile quand on travaille dans la communication que quand on travaille peut-être dans l'ingénierie, mais des fois, le fait de dire « Tiens, j'ai surfé sur votre site internet », ou lors de votre dernière conférence, vous exprimez telle difficulté. J'ai trouvé ça super intéressant et en cherchant, je me suis dit que peut-être cette idée-là, ou ce qui est fait aux États-Unis, ou ce qui est fait dans tel pays, on arrive avec des premières clés qui montrent qu'on a déjà un pas vers l'autre et on est force de proposition. Et ça change vraiment la donne.
Ok. Certainement pas une posture vraiment facile à avoir quand on est en recherche d'emploi parce que. Enfin, c'est pas évident d'être en recherche d'emploi.
Recherche d'emploi ou tout simplement premier emploi ou envie de... On a encore un rapport au travail qui reste, ce rapport un peu hiérarchique d'autorité, en fait. Et c'est là où je voudrais transformer peut-être le message. Stop, il n'y a pas de rapport d'autorité à avoir par rapport au travail. Il y a un rapport de partenariat, de mutualisation de projets. L'entreprise, elle n'est rien sans un collaborateur. Mais le collaborateur, je voudrais pas dire qu'il n'est rien sans le projet d'entreprise, parce qu'on peut se créer son projet d'entreprise. Mais le collaborateur aura de grandes chances de s'épanouir si le projet d'entreprise est cohérent. Donc c'est vraiment un tout qui fait qu'on doit pouvoir fonctionner ensemble.
Okay. Et donc, si on revient à ce marché du travail, en quoi est-ce qu'il est si différent d'il y a 5 ans, par exemple?
On ne va probablement pas valoriser les mêmes attentes et les mêmes besoins. Déjà, le marché du travail, il est multiple. Aujourd'hui, on a la possibilité de faire plein de choses, que ça soit sous un format associatif, entrepreneurial, salarié. Enfin, il y a vraiment beaucoup de possibilités. Il est multiple au sens qu'on peut cumuler aussi les fonctions. Alors, dans la limite du raisonnable, forcément, mais c'est tout à fait possible de slasher, soit d'être rémunéré avec plusieurs jobs, un salarié, un en micro-entrepreneur, et puis un autre, pourquoi pas non-salarié, dans une association. Donc ça, c'est quand même très accessible et je pense que les jeunes l'ont tout à fait compris puisque ça arrive quand même assez souvent aujourd'hui que les jeunes travaillent en même temps que leurs études. Donc ils ont déjà cette habitude de cumul, ce qui n'était pas forcément le cas dans les générations précédentes, notamment la mienne, où on était vraiment centré sur les études. Et puis une fois qu'on mettait un pied sur le marché du travail, il y avait ce rapport à l'autorité.
Par rapport à l'alternance, tu veux dire qu'il s'est développé parce qu'il y avait déjà des jobs étudiants?
Il y avait déjà des jobs étudiants, mais qui étaient... Alors peut-être que j'ai un regard restrictif, mais qui n'était pas forcément valorisé. Aujourd'hui, je trouve qu'on peut valoriser beaucoup plus... alors le babysitting, peut-être encore pas assez, mais le fait de travailler dans la restauration, par exemple, je trouve que c'est plus facile à valoriser maintenant qu'à notre époque. Alors après, moi j'ai 50 ans aujourd'hui, donc je remets ça il y a 30, 35 ans, enfin voilà, dans un autre modèle. Je trouve que c'est plus facile de valoriser certaines expériences, y compris des expériences très personnelles, comme le fait d'aller faire le tour du monde, le fait de partir 2 mois en mission sociale auprès d'une association ou en mission civique, par exemple, ce qui n'était pas forcément le cas il y a une trentaine d'années, en fait, où le trou sur le CV était déjà vécu comme quelque chose de « Oh là là, mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé ?»
Qu'est-ce que je vais pouvoir dire, pourvu qu'on pose pas de questions là-dessus.
Oui, exactement. Donc, c'est dans ce sens où je pense que ça a nettement changé. Et quand je dis que le travail est multiple... ça invite aussi à se poser la question de la valeur du travail. C'est-à-dire qu'on a tous besoin d'argent pour vivre, c'est un constat économique. Notre société est composée comme ça, donc on a besoin de faire entrer des revenus. Mais au-delà de l'aspect rémunération, il y a plein de façons aussi d'apporter d'autres formes de revenus. On peut imaginer par exemple le troc, on peut parler de troc de compétences, mais on peut aussi parler de troc de maison pour partir en vacances, on va cumuler des points. Donc il y a plein de façons d'équilibrer la manière dont on va dépenser et la manière dont on va faire rentrer ces sources de revenus. D'accord. Donc le salaire n'est pas une seule unique source de revenus. Et ça m'amène à dire aujourd'hui, ou à inviter chacun, qu'il soit salarié ou bien, quand je dis salarié, hein, quelle que soit la fonction publique ou autre, ou chef d'entreprise ou micro-entrepreneur, à se poser la question de c'est quoi son business model ? C'est quoi, en fait, de quoi j'ai besoin pour vivre et qu'est-ce qui est important pour moi ? Et je trouve ça assez intéressant de se poser la question, autant quand on est collaborateur, donc dépendant d'un système, d'une organisation qui nous rémunère, que quand on crée son entreprise. Moi, dans mon business model, je fais le choix de me sortir un petit salaire parce que j'ai envie de travailler pour le plaisir. C'est-à-dire que je préfère travailler moins, mais sur des sujets qui me tiennent à cœur, avec des gens sympas, et qui vont me permettre d'être dans cette dynamique du plaisir avec des sujets très différents. Ouais. Donc moi, je suis animée par des sujets différents qui m'apportent du plaisir.
Ouais. Qui te stimule.
Qui me stimule. Ce salaire-là doit me permettre de payer mes charges. Mais derrière, j'ai besoin de temps, parce que je suis curieuse, j'aime apprendre, j'aime rencontrer du réseau, donc je valorise mon temps personnel. Je ne prends pas ça comme contrainte de travailler à 3/4 temps, par exemple, parce que pour moi, je suis à plein temps. Mais dans ce plein temps, il y a du temps pour moi, donc mon enrichissement personnel, mon enrichissement réseau, et il y a du temps que je donne à l'autre. Et dans mon business model, j'ai été obligée de mettre des indicateurs de gestion de dons, parce que quand on est à son compte, on est rapidement aussi vampirisé par des demandes en tout genre. Donc j'ai 20% de mon activité qui est dédiée au don. Du don de temps, de compétences, d'aide. En général, je n'accepte pas forcément ce pourquoi on me sollicite. Je préfère, moi, être force de proposition en disant, si tu veux, on le fait gratuitement. Enfin, ça fait partie de mon quota de 20%, mais quand on me demande, on me sollicite, je suis pas très à l'aise avec ça.
Voilà.
Donc, dans mon business model, j'ai mon activité professionnelle qui doit absorber mes charges, je suis mon seul salaire, donc voilà, du coup, ça définit mon chiffre d'affaires cible, qui me permet d'avoir des chouettes projets et en même temps de m'en sortir. mais je valorise mon temps personnel parce que ça n'a pas de prix, mais justement je lui donne un prix qui est très important pour moi, et cette capacité justement à transférer une partie de mon temps et de ma dynamique d'action au profit d'une communauté que je soutiens. Voilà. Si chacun fait ça, ça revisite... Alors déjà, il faut être connecté à ses valeurs, il faut pouvoir le mettre en place et l'exprimer. Moi, je suis toute seule, j'ai pas de compte à rendre à un partenaire du quotidien, donc quelque part, j'implique pas ma famille, mais quand ma fille était encore à domicile, bah, elle a réajusté ses dépenses en prenant un job en parallèle à ses études. Enfin, je veux dire, il y a un équilibre qui se fait naturellement parce qu'on sent que tout le monde est bien aussi.
Ok. Et ça, c'est quelque chose que tu as mis en place à partir de quand, en fait ? Comment tu as pris conscience de ça ?
Ah là là. Ouais, alors...
Parce que c'est pas...
Non.
Bah, ça paraît naturel quand tu l'expliques comme ça. Tu vois, ça paraît presque une évidence.
Ouais.
Ça n'est pas tant que ça, finalement. Alors,
non, je pense que dans la vie, on rencontre des situations qui sont des éléments marquants de prise d'action ou de repositionnement. Donc, on peut parler de trauma, mais je préfère parler d'événements marquants parce que les événements marquants, quand bien même ils sont dans un univers traumatique, voire douloureux, à partir du moment où on les a transformés, il y a une résilience qui se met en place, donc c'est plus quelque chose de négatif. Mmh. Donc, le mot traumatique a plus de sens. Donc, dans mon cas, il y a effectivement un événement majeur, c'est le décès de ma fille en 2010, ma fille aînée, qui est décédée subitement, qui a fait que je n'ai plus souhaité aborder la relation à l'autre, mais de façon générale, au travail, dans mes relations, etc., de la même manière. Donc j'ai recentré en fait sur ce qui était mon essentiel, mais sans savoir ce qui était mon essentiel. Donc ça, c'est un point de départ qui explique mon cheminement. Donc des tests. Je teste un D'accord, truc. Non, okay. Ça ne me va pas.
En fait, tu as ressenti un besoin viscéral.
Exactement.
Et tu t'es dit, bon, il faut que je sais que j'ai besoin de ça, mais je ne sais pas exactement de qu'est-ce que c'est que ce ça.
Donc, c'est un peu en mode expérimental. Donc, on va chercher des outils. Donc là, on est dans l'apprentissage. On va s'ouvrir sur le monde. On va tester des choses. Et puis, la vie faisant, on affine.
Okay.
Quand j'ai créé ma société il y a 6 ans, j'avais la certitude que je n'étais plus faite pour rester à l'intérieur d'une entreprise. Parce que j'avais observé que j'avais trop de colère. C'est-à-dire que je passais beaucoup de temps à convaincre. Voilà, rien qu'en découpant le mot. Et en fait, je comprenais pas ce qui était facile pour moi à anticiper, à voir les solutions. Pourquoi ce n'était pas compris en face par le système. Et il y a un moment, je me suis dit, mais en fait... Je peux pas gâcher ce temps-là. J'avais acté que j'avais 6 mois d'avance entre ce que je proposais et la capacité de l'écosystème, de l'organisation, à mettre en œuvre l'idée. Sauf que moi, pendant ces 6 mois, je me fatiguais, je devenais chiante pour moi et pour les autres, clairement. Okay. Pas forcément ruminée, mais j'étais dans une énergie qui était pas constructive.
D'accord.
Une fois que j'ai acté ça, mais ça, c'est dans l'observation, je savais qu'il fallait que je sorte de l'entreprise pour pouvoir démultiplier le nombre de projets, le nombre de clients et les laisser maturer pendant ces périodes de 6 mois. Comme ça, je ne me fatigue pas et je suis toujours dans une énergie qui est positive pour moi. Mais ces constats-là, ils n'arrivent pas du jour au lendemain. Je parle beaucoup d'observation. Je crois que le premier territoire d'expérimentation, c'est soi.
Mm-hmm.
Soi et l'autre. Hein. Donc, moi et l'autre en proximité et moi le reste du monde... par rapport au collectif, quoi. Mais ce qui est valable pour un n'est pas forcément valable pour l'autre.
D'accord. Voilà.
Et donc,
c'est ça.
Là, remis au contexte de mon entreprise, quand j'ai créé mon entreprise, je voulais m'associer, je voulais recruter. J'étais dans un modèle de croissance, dans le modèle...
de l'entreprise.
Que pour réussir. Ouais. Et c'est l'année dernière où j'ai acté... après observation des 5 premières années, en disant, mais non, en fait, le management, c'est compliqué, je préfère être en mode projet, c'est vachement plus sympa pour moi, je suis dans un meilleur équilibre, je vais chercher les experts, je partage autant de chiffres d'affaires, je leur apporte autant de chiffres d'affaires que je génère pour moi, donc c'est top, enfin, je retrouve une forme de gratification dans cet acte-là, Et en fait, c'est la société qui attend qu'une entreprise doit croître. Mais moi, qu'est-ce que je veux? Et c'est là où j'ai commencé, même si j'avais déjà intégré les 20% de dons pour pas pouvoir, pour pas donner trop, pour pas me laisser envahir, pour pouvoir dire non plus facilement. J'ai dit, bah voilà, mon chiffre d'affaires cible, c'est ça. La valeur de mon temps personnel, c'est ça. Le temps que je dois donner à l'autre, c'est ça. Et peut-être que ça évoluera encore, mais il a fallu 5 ans.
Certainement.
5 ans d'entreprise pour arriver à ce business model-là.
D'accord, ok. C'est une sacrée connaissance de soi. Bon, je suis assez scotchée parce que je me dis qu'il faut quand même... c'est du temps à passer, c'est de la lucidité sur soi-même, c'est de la projection aussi sur l'avenir.
Ouais.
C'est pas un exercice simple.
Non.
Et en même temps, t'as l'air de le maîtriser.
C'est pas simple. Ça va être plus facile pour certains. C'est facile pour moi parce que comme j'ai une vision en méta... et que je suis très créative, ça me permet d'assembler en fait des indicateurs que je capte un peu comme ça dans les écosystèmes, d'avoir cette espèce de longueur d'avance qui me rend pas forcément visionnaire pour autant, mais je suis créative, donc je sais être au bon endroit au bon moment et avec les bonnes compétences, puis quand je les ai pas, je sais m'entourer. J'ai un réseau juste extraordinaire et avec qui j'ai beaucoup de plaisir à travailler. Quand ce n'est pas facile pour la personne, c'est là où le fait de se faire accompagner, c'est important. Alors, je veux pas tout ramener au rôle du conseil, mais le consultant, c'est on devient pas consultant par hasard.
Mm-hmm.
Donc, souvent, on retrouve, on parlait dans les podcasts précédents de force et de faiblesse, on retrouve ces talents-là. La force d'un conseil, c'est cette capacité à prendre du recul. Là où la personne, on peut prendre l'image de la mouche qui se tape contre la fenêtre, alors que si elle se décale de quelques centimètres, elle va trouver ses voies de liberté.
L'espèce.
Le consultant ou le facilitateur, suivant les problématiques, a des outils pour aider l'individu ou le système, c'est-à-dire l'organisation, donc à l'échelle du collectif, à passer en méta et puis à mettre en place les actions correctives. L'idée, c'est de trouver l'alignement, ce fameux équilibre.
Oui.
Mais l'alignement d'aujourd'hui ne sera pas l'alignement de demain. On reste dans le mouvement. Donc, mon alignement d'aujourd'hui, peut-être que si on se revoit dans 3 ans...
Actualisé.
Ouais. Et je vais te dire, tout compte fait, j'ai recruté quelqu'un. Mmh. Parce que je suis allée sur une expertise que je maîtrisais pas, mais qui m'a passionnée. Donc, c'était nécessaire et c'est chouette.
Parce que les opportunités, parce que la vie, parce que les envies...
C'est ça. Ouais, l'alignement, c'est vraiment une notion de moment.
Ouais.
Mais le moment n'a pas la même temporalité d'un individu à un autre ou d'un collectif à un autre. C'est-à-dire que certains vont apprécier des petits moments, d'autres vont apprécier des durées beaucoup plus longues. Sauf que la longueur aujourd'hui, on voit qu'elle est beaucoup plus difficile à respecter parce que on a des éléments extérieurs qui viennent nous chahuter profondément et de manière inattendue. Le Covid est un exemple de chahut mondial qui a complètement bouleversé son rapport à soi, son rapport à l'autre, le rapport au travail, le rapport au management, au temps, aux valeurs, à sa psychologie. Enfin, on peut balayer très large. C'est une expérience, c'est la seule expérience universelle partagée à travers le monde dans un instant T.
Qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui justement prend conscience de son besoin d'ajuster ou de créer son écologie, comment t'appelles ça, son business model personnel, et qui serait en fait au début de cette prise de conscience?
Passer la phase d'observation, parce que je pense que l'introspection et l'observation de soi, c'est la première étape. Dégainer un accompagnement externe peut permettre de passer à la phase d'observation, mais si on prend le temps de s'observer, on va accélérer quelque part les fruits de son accompagnement beaucoup plus vite.
Mm-hmm.
Donc, ça coûte rien de s'observer, en fait.
Ouais.
De s'observer, c'est interne et externe. C'est-à-dire, ce sont ses ressentis. Pourquoi cette situation-là, elle me rend pas bien? Pourquoi je suis tombée malade, pourquoi j'ai un rhume systématiquement. On sait scientifiquement que la frustration engendre notamment des migraines et des rhumes les migraines, ça arrive plus vite, mais des rhumes sous 8 jours.
Ah oui.
Donc, c'est assez rigolo de regarder quand on n'est pas très bien, de ce qui s'est passé dans la semaine qui précède la pathologie, même si c'est des petites pathologies. Donc, ouais, c'est s'observer sur ce qu'on ressent, sur ce qui se passe dans notre corps, la manière dont on dort, puis la manière dont on interagit avec les gens, en fait. Si on a des relations qui sont conviviales ou superficielles ou tendues, pourquoi on reproduit des schémas de situation, quoi. Donc, ouais, s'observer et puis se faire accompagner, je pense que c'est un bon moyen. Après, remis au HP, c'est un peu différent parce que le HP, par nature, a une introspection très élevée.
Mmh.
Il va sans cesse cogiter. Et il est souvent assez démuni quand il va consulter. Quelle que soit la personne, assez rapidement, il arrive à déceler le plafond de compétences de la personne qu'il a en face, ou à déjouer les stratégies qui lui sont proposées, que ça soit en psychologie, en technique, voire à se rendre compte qu'il en sait
il est déjà avancé.
Plus. Ouais. Alors, c'est très dur de dire ce type de phrase parce que ça rend quelque chose de condescendant. Mais ça ne l'est pas, c'est une réalité. Mmh. C'est-à-dire que dans le principe même du HP, il y a tellement une ouverture et une culture et un apprentissage qui a démarré très jeune et qui est tellement efficient que oui, c'est malheureusement une réalité. Donc, chez les HP, j'ai envie de dire picorer. Allez voir si c'est un psy, c'est un psy, si c'est un coach, c'est un coach, si c'est un consultant, mais picorez vos rencontres. Si vous sentez que vous avez atteint, que vous possédez déjà, c'est pas grave. En fait, vous avez la capacité de cumuler toutes ces informations, ces ingrédients dans votre boîte qui fonctionne déjà très bien. Ce qui pourrait manquer peut-être, c'est une problématique d'estime ou de confiance, parce que s'ils n'ont pas été entourés avec un cadre qui leur a dit « non mais t'es capable, je crois en toi, regarde ce que tu as fait, etc. » C'est ça qu'il faut aller chercher à l'extérieur, c'est prendre le temps de regarder ce qui a déjà été fait et la capacité à faire. Donc c'est souvent là où on retrouve des profils féminins qui, entre 40 et 50 ans, découvrent leur potentialité à travers les enfants ou à travers le plafond de verre de l'entreprise et sont en crise existentielle avec un désir de repositionnement. Bah là, ça permet d'avoir quelqu'un d'autre qui aide à remettre l'alignement en place.
Ouais.
Mais souvent, elles ont toutes les clés déjà entre les mains.
Oui. En fait, elles n'ont pas tellement besoin qu'on leur dise ce qu'elles doivent faire, mais elles ont plutôt besoin de quelqu'un ou d'un soutien, ou d'un entourage qui les porte, en fait.
Ouais, ou juste, c'est OK. Juste en
qui valide. Temps.
Ouais.
Qui valide.
C'est OK.
Ouais.
En fait, c'est OK si tu te sens pas bien là, mais alors et c'est OK si tu as envie de faire ça.
C'est OK si tu es hyper émotive.
C'est ça.
Ouais.
Oui, au contraire. Et dans les nouvelles générations, il y a Zao, Zao de Zagazan, je vais avoir du mal à le dire, mais
oui.
Qui a revendiqué à la télé son
c'est
super
touchant.
Pouvoir d'être dans l'émotion. Mais oui. Merci à elle. En fait, c'est à travers ces prises de parole que demain, ça sera une normalité. Et c'est là où on peut revenir à l'unicité, en fait, à la singularité de chacun. Mais si elle n'avait pas eu cette singularité-là, elle ne nous aurait pas proposé ce type de composition et ses performances qu'elle propose, son lien au public, etc. Et
bien sûr.
Le fait qu'elle en soit fière va aider toutes les nouvelles générations à en être fières aussi, quoi.
Est-ce que tu veux ajouter une dernière chose, Vanessa, avant qu'on clôture cette mini-série?
Déjà, merci, c'était chouette, ça a passé vite.
C'est gentil.
Peut-être qu'on peut retenir de tout ce que l'on a dit et qui me tient à cœur, c'est que derrière l'alignement, c'est vraiment cet équilibre-là et qu'il n'y a pas d'équilibre collectif s'il n'y a pas d'équilibre individuel.
Mm-hmm.
Donc ça, c'est important. L'enjeu, il est double à ce niveau-là. De repenser son business model, c'est de revenir aux fondamentaux. Qu'est-ce qui me permet de vivre? De quoi j'ai besoin? Cette forme de minimalisme, alors certains vont aller vers de la seconde main, ou peu importe. Chacun trouve ce dont il a besoin, et puis ceux qui ont besoin de beaucoup pour vivre, ça doit être OK aussi, hein,
ouais,
il en faut,
sûr.
Et il n'y a pas de souci par rapport à ça. Et puis le dernier point qui est essentiel pour moi, c'est la mise en mouvement, le mouvement. Il n'y a pas de vie sans mouvement.
Le passage à l'action.
Oui, parce que dans le mouvement, alors oui, il y a le passage à l'action, mais pas que. L'initiative de sortir, de rencontrer quelqu'un, c'est une forme d'action, mais à partir du moment où on sort de chez soi, déjà tout peut arriver.
Mm-hmm.
Même si on rencontre personne, on facilite, on favorise les synchronicités, le hasard. Si on reste sur son canapé, il se passera rien, quoi. Si on reste dans sa bulle, il se passera rien non plus.
Mm.
Donc la mise en mouvement, le mouvement. Et puis la mise en mouvement corporel, elle aide à structurer le schéma mental qui amène aussi au verbal. Donc ça facilite à apporter le décryptage qui appartient à chacun.
Dans la marche, par exemple.
Qui nous a réunis aujourd'hui grâce à un de tes podcasts sur la marche.
Je te remercie beaucoup, Vanessa. C'était très chouette de faire ces 3 épisodes avec toi sur la thématique de l'épanouissement au travail. J'espère que ça aidera nos futurs auditeurs et auditrices. Et je te souhaite une très bonne continuation pour la suite.
Merci beaucoup de m'avoir invitée. Le plaisir est partagé.